La table ronde que je voudrais vous expliquer, elle a été motivée par la même question que l'on a lancée aux auteurs des articles qui sont publiés dans le numéro des ateliers de qui a été distribué ce matin. C'est-à-dire on a demandé à chaque participant quels étaient dans leur domaine d'expertise, dans leur champ de recherche, d'enseignement, de pratique, les questions, les sujets, les dilemmes, les problèmes éthiques qui risquaient d'émerger, de prendre force pendant les prochaines 10 années. Donc une approche éminemment prospective que l'on va maintenant approfondir avec les propos de nos trois panélistes, nos trois tables rondistes, comme on les appelait pendant l'organisation de cette séance. D'abord, je voudrais vous expliquer qu'on aura deux rondes pour qu'ils s'expriment. Une première ronde un peu plus généreuse dans le temps, donc vous auriez 8 minutes. Pour vous exprimer. Et vous avez vu ma rigueur, j'ai mes papiers et tout à la portée pour vous signaler tout dépassement de temps. Ensuite, après cette première ronde, on redonnera la parole pour une deuxième intervention plus courte, 3 minutes cette fois-ci, une intervention complémentaire en réaction à ce qui aurait été dit par les autres tables rondistes. Suite à ces deux rondes d'exposition, ben là, les commentaires, les questions, les remarques, tous seront les bienvenus. Donc, ça vous convient ? On commencera d'abord, donc je vous présenterai chaque participant à son tour. En commençant, et désolé d'utiliser mes notes, mais je suis toujours nerveux dans ces situations-là et j'oublie des choses. Alors, je voudrais d'abord commencer par présenter le professeur Frédéric Bouchard, donc bien connu sûrement des étudiants, des collègues en philosophie, puisqu'il est professeur ici, à l'Université de Montréal, bac, maîtrise, doctorat en philosophie, le doctorat à l'Université de Duquesne. Je prononce bien, j'espère.
Duke.
Duke. Merci de me corriger. Le professeur Bouchard enseigne surtout philosophie des sciences et s'intéresse beaucoup aux fondements théoriques des théories bioévolutionnistes et évidemment aussi du concept de la théorie écologique. Il est depuis 7 années d'ailleurs coordonnateur de l'ESS en environnement et développement durable à l'Université de Montréal. Alors pour 8 minutes, votre intervention, merci.
Merci. Je vais le faire debout, si ça ne dérange pas. Donc, je suis ici pour vous dire que l'avenir de l'éthique environnementale n'est pas en éthique. Et vous pouvez prévoir la suite et en philosophie des sciences, mais de manière généreuse, j'ajouterai aussi en métaphysique. Il y a une préoccupation sérieuse derrière cela. Si on veut envisager les problèmes d'éthique environnementale au-delà d'une analyse anthropocentrique survie à court terme, qui est selon moi une analyse très pertinente que l'éthique environnementale peut adopter, mais dès qu'on s'éloigne de ce cadre de référence-là, on travaille avec des entités qui ne sont pas encore complètement définies. Et ça, c'est un problème. Il y a une espèce de... On brise l'analogie avec des problèmes de l'éthique plus traditionnelle où là, c'est des interactions entre être humain ou être rationnel ou être sensible. Et là, ensuite, la question, c'est de déterminer les conditions de rationalité, les conditions de sensibilité ou c'est quoi un être humain. D'accord? Donc, et ça, c'est quelque chose qui a déjà été suggéré là, dans la première présentation. Ici, on travaille avec des entités et des processus qui fonctionnent sur des échelles temporelles complètement sans commune mesure avec ce que l'être humain connaît habituellement. Donc là, il y a un problème épistémique qu'en éthique environnementale, on doit se pencher sur des entités et des processus qui dépassent notre expérience commune. Mais au-delà de ça, il y a un problème ontologique. C'est que ces entités, si elles existent, parce qu'il y a des désaccords par rapport au statut de ces entités-là, je vais donner des exemples dans un moment, font que l'éthique environnementale, en quelque sorte, et là je m'excuse pour ceux qui œuvrent là-dedans, là, mais... Tant que les problèmes ontologiques et épistémiques particuliers n'ont pas été traités, on en a déjà parlé ensemble, donc ça va. Mais à la limite, la question éthique ne peut même pas se poser de manière sérieuse. D'accord? Parce que, ou à moins, ne peut se poser sérieuse qu'en prenant position dans les questions épistémiques et ontologiques particulières. Donc, l'exemple que Peter Singer a soulevé, c'est le statut de l'espèce. Donc, quelles sont les distinctions entre les espèces? Mais encore là, ça va assez bien parce qu'on présume encore d'une certaine sensibilité. Donc, on présume encore qu'on s'intéresse aux espèces avec une certaine capacité à ressentir de la douleur. Donc, finalement, on importe encore un modèle de l'Homo sapiens sur d'autres espèces pour déterminer ce qu'il y a de la valeur ou ce qu'il n'y en a pas, ce qu'il faut préserver, ce qu'il ne faut pas préserver. Ça devient beaucoup plus difficile lorsqu'on parle de biodiversité ou de propriété d'écosystèmes. Parce que les écosystèmes, d'une part, les écologues se questionnent sur est-ce que les écosystèmes sont réels ou non. Quand je veux dire ça, c'est ont une existence indépendante de juste l'agrégation de processus physiques, chimiques, biologiques sous-jacents. Et juste pour souligner à quel point c'est des débats qui semblent pointus, puis peut-être qu'on peut faire l'économie de ces débats-là, et ensuite les mettre dans une boîte noire et faire comme si on savait c'était quoi, en parler. Ça détermine, entre autres, sur quelle échelle temporelle doit-on réfléchir par rapport à ces systèmes-là. Donc, selon la réalité ou non, la réalité ou, disons, l'aspect éventuellement fiction des écosystèmes, donc est-ce qu'un écosystème existe comme entité ou est-ce que c'est simplement un résumé d'un ensemble de processus trop difficilement résumables qu'on exprime sous le terme d'écosystème, bien, on parle de processus qui s'échelonnent sur un mois, 5 ans, 15 ans, 50 ans, 300 ans, 3000 ans. Et là, j'arrête là, mais bien sûr, c'est à beaucoup plus long terme. Donc, c'est des échelles temporelles avec lesquelles, même si on était capable de déterminer que oui, nous avons une responsabilité envers les générations futures, disons qu'on essayait d'étendre cette réflexion-là par rapport aux autres entités du monde biologique, la question des échelles temporelles ici défie l'imagination habituelle des philosophes en général, mais je dirais des éthiciens en particulier. Ici, ce n'est pas un reproche. C'est juste que c'est un type d'entité qui est radicalement différent de ce avec quoi on a à négocier habituellement. Autre problème des écosystèmes, c'est que, ici, je vais distinguer deux termes très intéressants pour un philosophe de la biologie, mais c'est la différence entre des communautés, qui là, on parle d'un assemblage d'espèces qu'on examine habituellement à une échelle de temps proximale. Donc, on s'intéresse à l'interaction des espèces proie-prédateur, par exemple, dans un lieu donné. D'accord? Ça, c'est une communauté. Et ça, c'est purement biotique. Donc, c'est vivant. Les écosystèmes, eux, on a fait allusion un peu avec les analyses, les problèmes bio-géochimiques, traitent aussi de l'abiotique, du non-vivant. Donc là, non seulement un écosystème, ce sont les communautés en interaction bio-géochimique avec leur milieu abiotique. Donc, si on dit que préservation d'écosystèmes, par exemple, donc sans nécessairement leur donner un statut moral particulier, mais même si on dit préserver un écosystème fait sens pour des raisons purement instrumentales vis-à-vis un horizon éthique particulier, qu'il soit anthropocentrique ou autre, on a un problème par rapport aux échelles temporelles, encore une fois. Parce que là, on commence à mettre ensemble des systèmes dynamiques hyper complexes, qui sont complexes de manière anhistorique, mais qui sont encore plus compliqués de manière historique. Donc, si on examine l'écosystème, disons qu'on admet que c'est une entité ayant une réalité ontologique particulière, là, ensuite, il faut se questionner sur quelle échelle temporelle va-t-on s'intéresser à cet écosystème. Donc, je dirais, une des tensions internes de l'éthique environnementale, c'est que pour qu'elle puisse devenir tractable, en quelque sorte, elle doit, même si c'est pour des raisons stratégiques, se replier sur une éthique anthropocentrique. Parce que les problèmes épistémiques sont tellement, je dirais, terrifiants. Okay? Là, je ne parle pas terrifiants au point de vue de la survie, mais juste le nombre de problèmes qu'on doit régler avant de pouvoir faire de l'éthique non anthropocentrique. Il y a une difficulté ici à faire de l'éthique environnementale qui ne s'écrase pas sur de l'éthique anthropocentrique ou qui ne devient plus éthique. D'accord? Donc, et moi, je crois que moi, c'est la voie qui m'intéresse plus, c'est de dire, bon, l'éthique environnementale, en fait, c'est une philosophie environnementale qui est profondément ontologique, profondément épistémique. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore résolu le problème de quelles sont les entités avec lesquelles nous voulons traiter. D'accord? Et ça, je dirais, c'est un problème pour le spécisme. Ça, c'est la partie facile, entre guillemets, même si c'est un problème non résolu de c'est quoi une espèce. D'accord? Donc, a fortiori, s'il faut préserver une espèce, qu'est-ce que ça voudrait dire préserver une espèce, ainsi de suite. Mais je dirais, l'espèce, ça, c'est la partie, pardonnez le mauvais jeu de mots, mais c'est la partie bébête du problème. Le vrai problème, c'est lorsqu'on s'intéresse aux interactions entre les espèces. Et là, déjà, on a glissé sur la pente savonneuse du problème épistémique. Là, il faut commencer à s'intéresser aux communautés. Les communautés traitent sur des échelles temporelles qui commencent déjà à dépasser nos horizons habituels. Mais a fortiori lorsqu'on s'intéresse aux écosystèmes. Donc, pardonnez un peu la... Je ne sais pas si c'est une douche froide ou si vous avez juste décidé d'ignorer, mais je dirais, les 10 prochaines années du Créum, moi, je dirais, ma prescription pour le Créum, pour les 10 prochaines années, si elle veut s'intéresser à l'éthique environnementale, c'est que le E dans Créum passe de éthique à épistémologie. Merci.
Merci beaucoup. Alors, nous enchaînons avec notre deuxième panéliste, qui est d'ailleurs doctorant sous la direction de Christine Tapollet. Donc, il s'agit d'Antoine Corriveau-Dousseau.
Oui.
J'espère bien prononcer. Bac et maîtrise en philo à l'Université Laval à Québec. Et depuis 2009, donc, doctorant ici à l'Université de Montréal. Donc, il fait le pont entre méta-éthique et éthique environnementale, donc sûrement apportera des éclairages pour reconcevoir ou pour peut-être sentir plus le froid qui vient de nous être versé par la première allocution. Merci.
D'accord. Ben, je commence en disant que je suis d'accord avec l'idée générale qu'il y a plusieurs enjeux de philosophie des sciences qui sont pertinents pour l'éthique de l'environnement, enjeux ontologiques, enjeux épistémiques. Par contre, j'aimerais quand même insister que... il y a quand même des questions proprement éthiques qui doivent, encadrer la manière où on pourrait dire oui, il y a des questions de philo des sciences qui vont être pertinentes pour l'éthique de l'environnement, mais il y a quand même des questions éthiques qui doivent se poser avant de décider quelles questions de philo des sciences on sous-traite aux philosophes des sciences. Si on veut voir ça en relation à ce que t'en dis.
Nous, on accepte l'argent de partout. Hein?
Ok, c'est peut-être un peu fort de parler de sous-traitance parce qu'en fait, je crois que la meilleure manière de travailler ça, c'est qu'il doit y avoir une relation plus d'interaction, de va-et-vient entre les deux. C'est-à-dire que la recherche en philo des sciences identifie des nouvelles manières de poser des problèmes pour l'éthique. Mais ensuite, en réaction à ça, il peut y avoir aussi, en éthique, on prend conscience, on découvre de nouveaux problèmes qui doivent être traités par la philo des sciences. Et il me semble, en tout cas, moi, dans ma recherche en éthique de l'environnement, qu'il y a certaines manières d'aborder les problèmes en philo de la biologie et de l'écologie. Il me semble que je suis porté à les aborder sous un angle différent de celui qu'on aborde dans les cours de Frédéric en philo de la biologie. Un des enjeux éthiques que j'aimerais aborder maintenant et qui pointe sur une tendance que je vois apparaître en éthique de l'environnement, une tendance qui me semble intéressante, donc je vais être comme un peu en même temps normatif et descriptif, c'est une tendance qui se développe actuellement et c'est une tendance que je suis porté à approuver. C'est une critique de l'approche classique, du moins en éthique environnementale nord-américaine, qui se focalise sur la protection de zones de wilderness, de zones de nature sauvage, donc l'idée d'avoir comme objectif de préserver la nature comme vierge de toute intervention humaine dans une opposition dualiste nature-culture, nature-artifice. Et il y a une tendance à, laisser un peu derrière cet idéal-là à la faveur d'un modèle plutôt de système socio-écologique où ce qu'on vise à faire, c'est à trouver une manière pour les humains d'habiter les écosystèmes d'une manière harmonieuse, d'une manière qu'on pourrait dire symbiotique ou dans une symbiose mutualiste, idéalement, si on veut utiliser des termes plus spécifiques à l'écologie. Juste quelques mots sur la critique de la wilderness, parce que quand même, elle est assez incisive et c'est important, je pense, d'un point de vue éthique, de la connaître, parce que si on ignore cette critique-là et qu'on veut traiter des enjeux de philosophie de l'environnement en se posant peut-être plus des questions épistémiques qui seraient au service de cette approche-là, ben on ignore, il me semble, quelque chose d'important qui s'est passé au plan de l'éthique normative dans les années, disons, 90-2000. La critique incisive, il y aurait trois points, disons, si on la résume. C'est d'abord, il y a plusieurs philosophes qui ont fait valoir que l'approche de la wilderness, elle est ethnocentrique d'une certaine manière, puisque l'idée, c'est une idée nord-américaine de préserver l'état des écosystèmes tel qu'il était avant l'arrivée, devinez, de l'homme blanc en Amérique du Nord. Et ça présuppose que les humains qui habitaient en Amérique du Nord avant n'étaient pas vraiment des êtres culturels, parce que si on définit la nature par opposition à la culture, mais dire l'état vraiment purement naturel de l'écosystème, c'est celui qui existait avant l'arrivée de l'homme blanc, mais ça suppose que avant l'arrivée de l'homme blanc, il n'y avait pas d'être culturel en Amérique du Nord, et donc que bon, vous voyez un peu la conséquence. C'est comme si ça disait, ça faisait une correspondance entre culture et civilisation occidentale, et les aspects culturels des peuples qui vivaient avant ne comptent pas comme de la culture au plein sens du terme. Donc, un premier problème, première critique. Une autre, c'est que même si on ne regarde pas en arrière autant que ça, on peut remarquer, ou en tout cas, il y a une critique qui a été faite, que le modèle de la wilderness implique une forme d'impérialisme, étant donné que c'est un idéal qui s'est développé beaucoup chez les environnementalistes nord-américains et qui ensuite est exporté partout dans le monde par des ONG qui sont généralement composées de nord-américains l'aspect impérialiste de ça, bien, c'est que la plupart des zones de wilderness, et ça c'est documenté, vraiment la plupart des zones de wilderness qui ont été créées l'ont été faites en délogeant des populations locales. Et donc, dans le fond, il y a aussi un paradoxe, c'est qu'on crée artificiellement des zones de nature pure, donc qui seraient supposées être l'archétype du non-artificiel, en forçant des populations hors de leur territoire, des populations qui généralement ont un mode de vie durable, et là, ils se retrouvent à devoir adopter un mode de vie vraisemblablement non durable en réaction à ça. Et peut-être à un niveau plus théorique, ben, cet idéal de la wilderness, il est incompatible avec une vision darwinienne selon laquelle l'humain fait partie de la nature et le fruit des mêmes processus évolutionnaires que tous les autres animaux qui existent sur Terre. Et dans le fond, dans cet idéal-là, il y a comme une espèce de relent d'un dualisme chrétien-cartésien corps-esprit selon lequel l'humain, qui rend l'humain spécial, et c'est seulement une sorte d'inversion de ce dualisme-là. On passe d'une situation où l'être humain est supérieur à tout le reste de ce qui existe en vertu de sa possession d'une âme immatérielle, du fait qu'il a été créé à l'image de Dieu, à une vision de l'être humain comme le corrupteur absolu de la nature. Aussitôt qu'il touche à un environnement, à une zone de nature, bien, la nature n'est plus naturelle. Il suffit d'y toucher et ce n'est plus naturel. Okay, si on y va à l'extrême, à ce niveau plus théorique-là, bien, se présupposer que aussitôt que l'humain touche à un écosystème, il dégrade par définition présuppose un dualisme qui est incompatible avec une vision disons darwinienne de la place de l'être humain dans la nature. Il me reste une minute, donc juste une idée rapidement, peut-être pour connecter avec les enjeux de philo des sciences, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, si on dit le but, c'est de poser l'idée de système socio-écologique où l'humain habite la nature de manière soutenable, ça pose toutes sortes de questions, premièrement sur comment on conçoit ça, qu'est-ce qu'on essaie de rendre soutenable, est-ce que c'est le couple formé par les humains qui habitent dans l'écosystème et l'écosystème lui-même, le tout que ça forme, on essaie que ça développe une forme de résilience, ou est-ce qu'on le pense quand même en termes de, il y a les écosystèmes qui ont leurs critères de soutenabilité, et là, on essaie d'agencer les critères des sociétés et des économies humaines à ces critères-là pour former quelque chose qui marche à long terme. Est-ce que donc ça soulève des questions, et il y en a même qui se disent ben les critères même, si on pense en termes de critères de système socio-écologique, ben ça devrait être chaque culture individuelle qui les décide pour elle-même, dans une perspective peut-être un peu plus constructiviste. Donc la question n'est pas du tout réglée en ce moment de comment on doit penser ça, cette idée-là de couple système socio-écologique. Merci.
Merci beaucoup.
Que Rava connecte son ordinateur, je voulais juste commenter, c'est très intéressant cette idée du système socio-écologique, et s'il y a un lieu de formation des professionnels qui justement travaillent à exprimer spatialement ou à traiter ces systèmes socio-écologiques par la manière dont ça se manifeste spatialement dans notre habitat, c'est la faculté de l'aménagement, la faculté à l'Université de Montréal qui intègre plusieurs formations professionnelles des aménagistes, dont nous avons ici sur le panel, c'est Rava Bousbassi, professeur à l'école de design industriel et plus particulièrement dans le programme de design intérieur. Alors Rava, quand plusieurs professeurs à la faculté de l'aménagement a dans son bagage une expérience, une formation professionnelle en aménagement, en architecture dans son cas, une formation, mais aussi une expérience comme bâtisseur, comme praticien de l'aménagement, qui va amener de fil en aiguille à étudier les fondements conceptuels et théoriques des pratiques de l'aménagement. Donc c'est avec ces termes-là que je le présente, et je souligne d'ailleurs avec son intervention l'association au Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal. Des professeurs, ou en tout cas beaucoup des membres de ces centres font partie de cette faculté de l'aménagement, donc on investit tranquillement, c'est surtout à travers cet axe d'éthique et environnement. Alors à toi, Travail.
Merci beaucoup, d'abord merci beaucoup au Crayon. Je voudrais juste dire à tout le monde, je me suis rendu compte, ça fait déjà 10 ans, donc j'étais un des premiers boursiers de doctorat du Crayon en 2002. Donc, et quand Juan nous a annoncé le colloque, c'est pour les 10 ans, je me suis dit, mon Dieu, ça passe très vite. Donc la commande qui nous a été posée par Juan, c'est donc 10 ans sans passer, c'est quoi la commande pour les prochains 10 ans, ou c'est quoi les orientations pour les prochains 10 ans? Donc je me propose d'intervenir sur des questions qui relèvent plutôt d'un champ professionnel qu'on appelle l'aménagement, qui regroupe essentiellement des disciplines dites professionnelles. Donc je sais que le terme discipline et profession ne s'accordent pas souvent, mais dans d'autres univers épistémologiques, ça s'accorde extrêmement bien. Donc les disciplines professionnelles de l'aménagement, c'est quoi? C'est l'architecture, l'urbanisme, le design d'objets, l'aménagement paysager, le design graphique, et on peut en jeter les designs de sites web, tout ce qui concerne donc l'aménagement du cadre de vie des citoyens, des personnes de façon générale. Un des modèles donc, qu'on utilise souvent, enfin, qui est assez commode lorsqu'on traite des questions de relations de personnes et de l'environnement. Et notez bien, lorsque je parle d'environnement dans mon cas, donc s'il s'agit vraiment d'environnement bâti, genre la salle où vous êtes en ce moment, qui est très 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 bien faite. Donc c'est plus dans ce sens-là. Donc, alors cette question, ce modèle de relation personne-environnement, il nous vient bien entendu avant du modèle de la biologie, donc Lamarck, Buffon au XVIIIe siècle, Darwin par la suite, donc qui étudie un peu les relations qu'entretient les organismes vivants avec leur environnement ou contexte ou habitat. Dans le cadre de la relation, la distinction animaux ou personnes environnement, bien entendu, vous l'aurez compris, c'est une distinction plus analytique, donc c'est pour vraiment traiter de cette relation de façon analytique. Mais dans la réalité, bien entendu, c'est très difficile d'extraire l'organisme ou la personne ou l'animal de son environnement. Donc pour des raisons donc d'analyse, donc cette relation chez les animaux, on sait qu'elle est régie par des processus d'adaptation, donc des principes de symbiose, de complémentarité, d'autres lois également qui gouvernent la nature, donc l'attraction des opposés qui paraît un peu contradictoire pour un esprit rationnel, mais la nature fonctionne également avec un de ces principes, donc l'économie d'énergie qu'on essaye de copier dans des pratiques, des principes de cycle de vie, donc ça fait partie également de la nature. Donc chez les animaux, donc cette adaptation se déroule plus ou moins d'une certaine façon. L'animal s'adapte à son environnement, l'environnement...
Pardon. On essayait de tirer l'écran pour tirer la dernière ligne des temps.
Alors le problème, c'est lorsqu'on essaie d'étudier donc les relations personne et environnement, une des manières donc de conceptualiser cette relation, surtout en aménagement, donc on dit dès qu'il y a un problème, enfin dès qu'il y a un constat problématique dans cette relation de la personne avec son environnement, il y a occasion donc d'un projet, de ce qu'on appelle un projet d'aménagement. Donc on peut établir un projet d'aménagement. Et traditionnellement, c'est presque un automatisme. L'attitude tout de suite qui vient à l'esprit, c'est l'environnement qui ne va pas, donc c'est l'environnement qu'on va adapter, donc qu'on va corriger, qu'on va modifier. Et ce qui vient tout de suite après, donc on crée ce qu'on appelle des environnements artificiels. Donc une maison, un édifice, une ville, jusqu'à un certain degré, sont à quelques degrés près des environnements artificiels qui sont créés pour soi-disant adapter ou adapter l'environnement aux besoins de la personne, au bien-être de la personne, au bonheur de la personne et des communautés, ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment c'est l'attitude naturelle. Souvent, on ne se pose pas beaucoup de questions sur l'environnement qu'il faut corriger, ainsi de suite. J'ai pris ici une citation d'un auteur japonais. Donc, a house is a space taken from nature and enclosed for human. Donc, vous voyez, donc, l'idée, c'est que de prendre un espace ou une partie de l'environnement ou de la nature pour les adapter ou l'adapter aux besoins de la personne. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, cette idée d'enclosure ne posait pas beaucoup de problèmes. Enfin, du moins. Pas de façon aussi criante qu'on le voit ici. Donc il y a eu depuis tout le temps donc la question de savoir est-ce qu'on va rester dans le wilderness ou pas. En aménagement, la question ne se pose pas. On habite la Terre, donc on est des habitants de la Terre au même titre que tous les êtres vivants. Donc vous avez ici des exemples. Donc une bonne partie de l'humanité vit dans des environnements pareils, donc ils sont pris un certain espace qui est prêt à la nature. Donc on peut se réunir sous un arbre pour tenir une réunion de village dans un climat très chaud. Vous avez ici une belle ville qui a plus de 1000 ans d'existence, donc au milieu du Sahara algérien, où il fait régulièrement 40 degrés en moyenne à l'ombre durant toute l'année, donc il est extrêmement chaud, mais tout est fait, donc les matériaux sont faits, donc c'est des matériaux naturels, c'est la brique de terre construite sur place, la ville, les ruelles de la ville sont tellement étroites que c'est tellement frais de se promener dans cette ville, on ne croirait pas qu'il fait juste un kilomètre plus loin, il fait 50 degrés à l'ombre. Donc jusqu'à pas très longtemps, cette relation, donc cette enclosure là, donc cette fermeture d'une certaine manière, ne posait pas beaucoup de problèmes jusqu'à disons, à partir du 19e siècle, ça commence à se corser. Cette enclosure, c'est devenu vraiment une rupture vis-à-vis de la nature. Donc, c'est vraiment on est arrivé maintenant à des espaces qui n'ont plus aucun sens écologiquement. Vous les reconnaissez certains, en termes d'urbanistique, prenez juste Las Vegas qui n'a plus aucun sens du point de vue. Donc je vais essayer de finir. Donc, ou des bâtiments qui sont construits avec des matériaux qui sont tellement énergivores juste pour les produire et encore pour les mettre en œuvre, pour les construire. Des environnements internes qui sont complètement artificiels, où vous respirez de l'air traité, de la chauffage traité. Ben, tout est artificiel. Donc ce n'est plus d'une certaine enclosure, mais vraiment c'est la fermeture carrément. Donc on est rendu dans l'artificiel extrêmement. Alors donc c'est cette idée donc de corriger l'environnement, elle est connue dans l'histoire de c'est ce qu'on appelle le faire. Hannah Arendt l'a très très bien décrit dans sa condition humaine, ou l'attitude poétique. Donc dès qu'on a un problème, on a tendance à faire, donc à produire quelque chose, à faire réveiller un peu l'homo faber qui sommeille en nous, et on produit de la technique. Voilà, donc c'est, on corrige avec des éléments instrumentaux ou des environnements techniques. Une idée pour savoir ce qu'est la technique ou ce qu'est l'attitude poétique, c'est imaginez juste donc à Sylvester toute l'ingéniosité qu'il déploie pour attraper Tweety. Donc vous avez la technique, c'est ça. Donc on a un but. Une seule but ou une seule vision, enfin un seul objectif, mais on déploie toute une ingéniosité de solutions pour atteindre ce but. C'est ça un peu la technique ou la vision technique. Donc c'est pas aux philosophes que je vais apprendre donc d'où vient l'idée de la technique entre autres ou du faire. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui on sait que le véritable problème c'est pas l'environnement. Ça je pense que on le constate de plus en plus. Donc ce qui pose problème, c'est les modes de vie, c'est les personnes, c'est les humains, c'est leurs habitudes, c'est leur comportement, c'est leurs activités. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse d'ailleurs à l'éthique. L'éthique concerne d'abord les êtres humains, concerne d'abord les modes de vie, des activités, des comportements. Il n'y a pas d'éthique de l'environnement, il y a de l'éthique de la relation de la personne à l'environnement. L'environnement, lui, s'en fout de l'éthique et la nature s'en fout complètement de l'éthique. Donc c'est, ce qui est en cause, ce sont les, notre relation à l'environnement ou notre conception de l'environnement ou notre mode de vie ou nos comportements. Donc en aménagement, j'y arrive très vite. Aujourd'hui, le défi, donc c'est la question qui nous a été posée par Juan, le défi pour les prochaines années, c'est vraiment de travailler donc avec ces questions de mode de vie et comment, c'est la question que je pourrais poser aux aménagistes, comment penser élaborer des projets d'aménagement qui tenteront en premier lieu d'abord de corriger des modes de vie plutôt que l'environnement, en premier lieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne corrige pas l'environnement, mais si on pense en premier lieu d'abord au mode de vie, on trouvera les solutions les plus adéquates en termes d'aménagement de l'environnement. Donc c'est un peu ce... Vous connaissez certainement certains exemples, c'est ce qu'on appelle en design, donc le design de service ou le design d'activité. On ne fait pas de design de produits, on design des comportements, on conçoit des comportements. Comme une auto, c'est un très bon exemple, le covoiturage, c'est un très bon... C'est-à-dire qu'on n'ajoute pas d'autres objets supplémentaires, on fait avec ce qu'on a en ce moment. Bixi, c'est un bon... Ou Cargo, là, qui est l'équivalent de Bixi, mais en voiture, qui est en implantation un peu partout maintenant, à Vancouver, entre autres. Donc ce sont un peu ce type de comportement. On agit d'abord sur le comportement avant d'agir sur l'environnement, finalement. Quand on parle de mode de vie ou de personnes, de quoi il s'agit en aménagement, tout projet d'aménagement comporte au moins trois figures d'acteurs. L'usager à qui c'est destiné l'aménagement, donc l'habitant, le citoyen, le citadin, nous tous, le public, les consommateurs. Tout projet d'aménagement, il a un client, donc c'est des institutions, des entreprises, des promoteurs. Et tout projet d'aménagement met en œuvre, enfin, implique des professionnels, des designers, des architectes, mais bien d'autres aussi, donc des urbanistes. Il y a 5 ans ou un peu plus, Alain Findelli et moi-même avons écrit un peu un article qui va un peu dans ce sens. Donc là, vous voyez à peu près tous les aspects dont un projet d'aménagement prend en considération. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, la question de l'objet ou du résultat se posait d'une façon importante, mais maintenant c'est des questions de processus, des fonctions, des acteurs et des modes de vie. Bien entendu, l'éthique, c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup à l'éthique, parce que l'éthique, c'est le champ de connaissances le plus approprié pour traiter la question des acteurs et la question des modes de vie. Alors que l'esthétique, jadis, donc, traitait plus donc, des qualités sensibles des objets ou des édifices concrets. Ces questions regroupent deux mondes, c'est vraiment au sens phénoménologique du terme, là c'est deux mondes complètement différents, le monde de la conception et le monde de l'usage ou de la réception. Qui sont vécus vraiment très très différents. Et le problème aujourd'hui avec cette question, c'est que le monde de la conception est trop intellectualisé. On le vit trop beaucoup en termes intellectuels, alors que le monde de l'usage, lui, il est vécu en mode sensible. Donc c'est très difficile d'aller de ces deux mondes-là, de comprendre la logique de ces deux mondes qui sont très 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 différents. Je vais finir avec une citation d'Aristote. Pourquoi on s'intéresse au mode de vie ? Parce qu'on revient quand même à l'origine de l'éthique, ce qui est quand même qui vient du terme ethos, donc grec, qui signifie d'abord habitude, coutume, manière d'être, habituel. Donc un extrait de l'éthique à Nicomaque, la vertu morale ou éthique est le produit de l'habitude. Donc remarquez bien l'importance du mot habitude qui est un phénomène qui nous échappe beaucoup. D'où lui est venu donc son nom par une légère modification de ethos. Aucune des vertus morales n'est engendrée en nous naturellement car rien de ce qui existe par nature ne peut être rendu autre par l'habitude. Ce n'est ni par nature ni contrairement à la nature que naissent en nous les vertus morales, mais la nature nous a donné la capacité de les recevoir. Et cette capacité est amenée à maturité, donc ça prend du temps, par l'habitude. Je vais finir donc avec cette idée que l'éthique, s'il faut revenir vraiment au sens premier de l'éthique, qui est d'abord un ethos habitué au bien. Les trois termes sont vraiment super importants. Ethos, c'est important. Le bien, on sait combien il est controversé, que la conception du bien. mais habitué, j'ai l'impression qu'on l'oublie souvent, alors c'est le nœud. Comment forger des habitudes soutenables? Et les écoles professionnelles, pour ce qui nous concerne du moins à la faculté d'aménagement, c'est la question, c'est comment former des ethos, parce que former un professionnel, c'est forger un ethos. Et comment forger cet ethos de sorte à ce qu'il se comporte d'une manière soutenable? Je vous remercie.
Merci beaucoup, Rabat. Pour rester dans le temps, je vais considérer que tu viens d'épuiser aussi tes 3 minutes de la deuxième ronde. Et donc, okay. On